En fait, au terme de ces deux journées, pour ceux qui ont fait les deux journées sur l'identité humaine, j'aimerais que nous puissions tourner nos regards vers le psaume 139. Et puisqu'aujourd'hui, il a été question du concept de personnalité, aussi d'identité, relèverai plutôt ce qui relève de la relation personnelle qui est effectivement assez présente dans le cadre de ce psaume. Alors, je ne vais pas lire l'ensemble du psaume, mais peut-être simplement quelques passages de ce psaume, à commencer par le début. « Éternel, tu m'as examiné à fond, tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée. » Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Et ça m'a toujours frappé que voilà, ce regard hein, que Dieu pose sur David et le fait que David parle de Dieu comme celui qui le connaît entièrement. Et ce n'est pas ici une connaissance superficielle. Hein. Le terme utilisé est un terme très, très fort. D'ailleurs ici, c'est traduit par tu me connais à fond. C'est repris par Job pour parler de celui qui creuse le minerai. Donc c'est véritablement une connaissance particulièrement profonde. Et en même temps, c'est une connaissance, quand on a un peu à l'esprit l'ensemble de ce psaume, hein, qui va rassurer et apaiser David. Pourquoi ? Eh bien parce que David ne perçoit pas ce regard de Dieu sur lui comme le regard de l'inquisiteur, hein, mais beaucoup plus comme le regard du Père bienveillant. Si je prends les ailes de l'aurore pour aller demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Que ce soit dans le séjour des morts, que ce soit au-delà des mers, quelle que soit la situation où il se trouve, eh bien la main de Dieu est prête à intervenir. Alors si David peut ainsi parler du regard que Dieu porte sur lui, c'est justement, et ça apparaît très fortement dans ce psaume, parce que David connaît Dieu personnellement. Et David ne cherche pas à nous transmettre un savoir théorique sur Dieu, mais c'est bien dans ce dialogue entre le « tu » et le « je », finalement un dialogue intime entre le Créateur et lui, la créature, qu'il va nous parler de Dieu. Et on est proche, ou on s'approche, de cette relation filiale telle qu'elle aura pleinement sa présence sous l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où David, Paul dit que Dieu enverra donc l'esprit de son fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Alors, pour reprendre un peu ici certains éléments de ce qui a été dit au cours de la journée, on sait que le regard du Père sur son enfant sera toujours important, il pourra être culpabilisant, il pourrait être absent, il pourrait être aimant, il pourrait être rassurant, il aura toujours un impact et il sera à certains égards structurant. Pour David, le regard de Dieu a donné sens à sa vie et l'a conduit à célébrer son Créateur et à s'émerveiller devant son œuvre. Passage qu'on connaît sans doute très bien de ce psaume, hein. Tu m'as aimé, tu m'as fait du moins ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre, se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés avant qu'aucun d'eux n'existait encore. Donc on voit que David se reconnaît comme une créature voulue, attendue, aimée de Dieu. Son identité d'humain s'inscrit dans une relation personnelle avec un Dieu qui l'aime et qui sait tout de lui. Alors à partir de ce texte et de bien d'autres textes et de ce qui a été dit aujourd'hui, on comprend que la notion même de personne s'est forgée au cœur de la foi judéo-chrétienne. Et dans un article sur l'hellénisme et le christianisme, le philosophe Jean Brun relève qu'en en grec, il n'existe pas de mot permettant de traduire exactement le mot personne. Alors, le mot personne apparaît en grec, mais pas dans le sens que cela aura eu par la suite. La philosophie grecque réfléchit sur l'individu en tant que celui-ci appartient à un tout qui l'englobe, et que ce tout s'appelle la nature ou la cité. Et j'emprunte de préciser son propos en disant que la notion de personne, notion éminemment chrétienne, relève du sacré, car elle porte en elle la signature de la création, l'image de Dieu selon laquelle elle fut faite. Alors c'est vrai que le verset qu'on a eu l'occasion de commenter finalement associe étroitement l'image de Dieu à la relation de l'homme et de la femme. Alors ça ne veut pas dire que l'image de Dieu se réduit à cela, puisque d'autres textes vont nous dire dans la Bible que l'homme et la femme sont image de Dieu séparément. Mais on voit que dans ce verset, c'est le cas. Et dans le récit suivant de Genèse 2, l'auteur nous montre que la relation qu'entretient l'homme avec la création ne sera pas suffisante pour répondre à sa solitude. Et c'est à partir du moment où Dieu crée la femme comme vis-à-vis de l'homme qu'une relation intime, personnelle, s'instaure, scellée par le mariage, une relation qui cette fois répond vraiment à la solitude de l'homme. Matthieu Richel commente ici, quant à la création de la femme, son retardement met en valeur son importance pour l'homme et le manque qu'il éprouve. La femme représente ici l'altérité au sein même de l'humanité, une autre façon d'être humain. Alors on a vu au cours de la journée que la personne ne se définit pas d'abord, en tout cas du point de vue biblique, par son individualité, à savoir son caractère, ses compétences, mais plutôt à partir de ses relations, à commencer, du point de vue biblique bien sûr, à commencer par sa relation avec son Créateur. Alors est-ce à dire pour autant que la Bible ignore l'individu au profit de la relation et de la communauté? Sans doute pas. L'individualité est entièrement conservée, mais elle est comprise d'abord dans le contexte du rapport relationnel. Et pour citer ici, alors je ne sais pas si certains le connaissent, le conférencier Ellis Potter, il dit que voilà, la personnalité, pour lui, en tout cas, est une prise de conscience de soi-même, mise en rapport avec d'autres prises de conscience semblables. Alors, on l'a vu aussi, c'était la première intervention. Dieu lui-même est en trois personnes et il y a ce dialogue entre les différents moi au sein de Dieu, entre les différentes personnes de la Trinité, personnes distinctes sans être séparées. Et cela apparaît de manière le plus nette lors de l'incarnation, au moment où Jésus dialogue avec son Père, notamment dans cette prière dans le jardin de Gethsémané, où Jésus finit par acquiescer à la volonté de son Père. Je pense une prière sur laquelle nous aurons chacun d'entre nous l'occasion de méditer au cours de la semaine qui va venir. On le sait, l'image de Dieu en l'homme a été profondément détériorée par le péché qui a brisé notre relation avec Dieu, sans pour autant évacuer cette image qui demeure. Mais la bonne nouvelle, l'Évangile, proclame que cette image est restaurée en Christ, de sorte que l'homme nouveau se renouvelle pour être à l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Et il a aussi été rappelé ce schéma biblique, hein, création, chute, rédemption. Aucune autre religion ne nous parle d'un Dieu en trois personnes communiquant entre elles, ni d'un Dieu qui accepte d'assumer notre humanité pour rétablir une relation rompue. Or, la foi en Christ, mort et ressuscité pour nous sauver, implique une relation personnelle, une relation avec Dieu. La foi est une découverte d'une relation qui libère, d'un Dieu d'amour qui pardonne. Alors, la foi ne nous met pas à l'abri de notre humanité avec ses tentations, sa vulnérabilité avec ses souffrances, mais elle nous donne l'assurance d'une identité restaurée. Elle nous donne la confiance qu'une transformation s'opère en nous par l'Esprit de Dieu, selon ce que Paul écrit dans 2 Corinthiens 3, 18. Alors le verset a été cité, je crois qu'il n'a pas été, enfin la référence en tout cas. En nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Cette vision de l'humain qui porte en lui l'image de Dieu restauré ouvre naturellement des pistes en apologétique, non seulement pour rendre compte de notre foi, mais déjà pour la vivre, car je crois que la première démarche de l'apologétique, c'est déjà de vivre la foi. Et comme le fait remarquer l'apologète Francis Schaeffer dans son livre sur la Genèse, et ici j'aimerais un peu le citer, la spécificité de l'être humain résulte donc de sa relation exclusive avec Dieu. Et cela a été aussi rappelé aujourd'hui. La ressemblance avec Dieu est donc fondamentale pour l'homme, car elle conditionne son appréhension du monde. Elle éclaire, par exemple, les concepts de personnalité et de communication. Elle concrétise la notion de personne et celle de partage qui lui sont corrélatives. Dès que je prends conscience de ma ressemblance avec Dieu et du fait qu'il est une personne, la relation avec lui et la relation avec autrui sont aussitôt valorisées. Et voici que l'amour véritable cesse d'être un amour inaccessible. En outre, notre ressemblance avec Dieu permet aussi à Dieu de nous transmettre la vérité sous forme rationnelle. Enfin, et en dépit des mystères qui l'entourent, l'incarnation n'apparaît plus comme un non-sens. L'homme, en effet, qui s'enferme dans ses limites face au grand autre de la philosophie, ne peut la concevoir. Ma ressemblance avec Dieu, conclut Francis Schaeffer, exprime mon identité sur les plans affectifs, intellectuels et psychologiques et m'inscrit dans une réalité de l'histoire. Alors pour conclure vraiment, dans une société qui souffre de dépersonnalisation et où finalement les problèmes sont souvent envisagés du point de vue de la technique, et donc souvent de manière impersonnelle, cette vision de l'humain a beaucoup à nous dire et je pense aussi beaucoup à vivre, notamment dans une société individualiste où nous sommes amenés justement à retrouver ce sens de la relation et aussi de la communauté. Et c'est finalement une belle mission qui nous est confiée que de pouvoir en témoigner dans notre quotidien. Là où Dieu nous place dans nos lieux de vie et de profession les uns et les autres. Alors c'est vrai que par nous-mêmes, je pense qu'il serait prétentieux de pouvoir accomplir cette mission, et nous savons que seul Dieu, par son esprit, nous permet de pouvoir le faire. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin du regard de Dieu sur notre vie, pour qu'il nous conduise sur le chemin qui lui plaît. Et il nous revient de faire nôtre cette prière de David qui conclut ce psaume 139. Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de toujours. Amen.
Merci, Michael. Je propose, puisqu'on a commencé la journée de cette façon-là, que l'on termine avec la prière, donc je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous nous plaçons devant toi. Nous sommes émerveillés de voir à quel point nous avons de la valeur et de l'importance en tant que personne. Ce n'est pas, nous ne sommes pas là par le pur hasard. Tu l'as voulu, tu as voulu que l'on soit là. Tu nous as donné une perspective même éternelle de notre existence. Seigneur, je voudrais te demander d'abord que tu nous aides à bien assimiler ce que nous avons entendu aujourd'hui, que nous puissions le faire connaître autour de nous lors de conversations ou de débats, que nous puissions être des personnes qui apportent de bonnes nouvelles, et que la première bonne nouvelle, avant même la bonne nouvelle du salut, c'est notre importance, notre valeur devant toi. Merci parce que nous sommes des personnes. Je veux demander aussi, Seigneur, que tu nous aides en tant que comité à décider des suites de cette journée, que nous puissions faire connaître aussi largement que possible toute cette réflexion pour le bien de ton peuple. Je veux demander aussi, Seigneur, que tu nous aides à développer notre accompagnement de tous ceux qui sont dans les sciences humaines. Nous avons beaucoup de chemin à faire encore, mais Seigneur, nous voulons que ce soit aussi pour ta gloire, que chacun s'engage dans la réflexion et dans la pratique. Seigneur, accompagne-nous aussi chacun dans nos demeures et nous nous remettons à toi, sachant que nous vivons notre vie d'abord devant toi, que tu es celui qui nous voit, comme nous l'avons vu dans ce psaume 139, mais aussi celui en qui nous pouvons vraiment faire confiance. Merci au nom de Jésus. Amen. Ben, il ne me reste plus qu'à vous dire, n'oubliez pas de changer vos montres cette nuit. Pour le bien de vos pasteurs et de vos frères et sœurs, demain, si vous y arrivez à l'heure pour le culte. Voilà. Ah oui, Jérémy, ramasse les questions. Je vois qu'il y a quelques livres qui restent. Je fais du kiné pour mon épaule en ce moment, donc voilà, si vous voulez, faites des économies à la sécu.